Bien, alors merci à tous d'être venus écouter Olivier Truc, qui publie en septembre chez Métellier, donc Le Détroit du Loup, son deuxième opus avec La Police des Rennes. Alors Le Dernier Lapon, d'autant plus, était avidement conseillé par les libraires et notamment par nous qui étions tombés sous le charme de, de ces grands espaces du Grand Nord. On entendait les Joïc, on était sur les grandes plaines désertiques du Vida, on est dans le Gumpy de La Police des Rennes. Et là, vous remplissez avec la deuxième enquête de Clémette et Nina, donc de la police de la Brigade des Rennes. Et vous avez gagné de nombreux prix, vous avez été distingué pour Le Dernier Lapon. Et notamment, vous aviez obtenu le prix du Quai du Polar, hein, qui est un prix dont j'ai vu la remise, dont j'ai eu la chance de voir la remise à Lyon. Et dans l'autobiographie que vous aviez donnée pour ce grand festival annuel du polar, vous disiez que vous étiez un Français du Sud émigré dans le nord de l'Europe, que vous n'aimiez pas le froid, mais par un curieux mystère, vous vous retrouviez le plus souvent fourré au fin fond de la Laponie. Vous présentiez ainsi. Alors, à la fin du dernier Lapon, on était encore plongé dans la nuit polaire. Le soleil commençait petit à petit à poindre. La Clémette était privée d'ombre depuis 40 jours. Et dans le Détroit du Loup, on est dans une autre partie de la Laponie. Et en fait, on se rend compte, on est de suite plongé géographiquement dans ces espaces, puisque chacun des deux romans, Dernier Lapon et Détroit du Loup, s'ouvre avec une des cartes. Et on se rend compte que la Laponie n'est pas un pays en tant que tel, c'est un territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce vaste territoire ?
Alors la Laponie dans son ensemble, c'est... Bonjour d'abord. C'est un territoire, comme vous dites, oui, qui fait à peu près 400 000 km² dans son ensemble. Donc c'est très grand, c'est les 4/5 de la France. Qui est à cheval sur 4 pays, sur Norvège, Suède, Finlande, et puis un bout de la Russie, la péninsule de Kola. Il y a 70 000 à peu près, on ne sait pas exactement combien ils sont d'ailleurs, mais il y a 70, entre 70 et 100 000 Samis. Une partie d'entre eux ne vivent pas en Laponie d'ailleurs, ils vivent dans les villes, ils vivent un petit peu partout en Europe du Nord. On dit toujours souvent que le plus grand village sami en Suède, c'est Stockholm. La majorité d'entre eux sont en Laponie norvégienne. C'est là aussi où ils sont le plus concentrés. En Laponie, ils sont moins éclatés dans le reste du pays. Donc c'est aussi en Laponie norvégienne que les Samis sont le plus forts. Donc ils sont 40 000 à peu près côté norvégien, 20 000 côté suédois, 6-7 000 côté finlandais, 2 000 du côté russe. Et seulement 10% d'entre eux sont dans l'élevage de rennes. Donc là aussi, on a cette image un peu d'épinal du Sami éleveur de rennes en costume chamarré avec son renne, les aurores boréales sur fond de neige et tout ça. En fait, c'est pas le cas pour la plupart des Samis qui sont... ils font les métiers de nous tous dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils sont garagistes, enseignants, ils sont peintres, ils sont je ne sais pas quoi. Voilà, mais ces gens-là aussi, ils sont samis ou pas, mais peut-être qu'on en parlera.
Oui, tout à fait. Et donc là, vous avez choisi d'aller encore plus au nord, vers le Cap Nord, dans une ville qui s'appelle Hammerfest. Pourquoi cette ville ?
Alors Hammerfest, oui, c'est une ville qui est située sur une île, en fait, l'île qui s'appelle Kvaløya, ça veut dire l'île de la baleine, qui est de fait vraiment sur la mer de Barents. Donc c'est l'océan Arctique, c'est le début de l'océan Arctique. Et pourquoi Hammerfest ? Parce que c'est une ville qui, justement, par sa situation, est au fil des ans, depuis quelques décennies, s'est développée en centre... logistique pour tout ce qui est développement pétrolier et gazier en mer de Barents. Donc c'est une ville qui a une identité très particulière où il y a énormément d'industriels qui sont là, de pétroliers, de compagnies pétrolières du monde entier qui sont présentes. Donc ça donne, et ça au fin fond de la Laponie, donc ça lui donne un caractère unique. Alors qu'on imagine toujours la Laponie comme quelque chose, une région très marquée en fait par la tradition, parce que le côté éleveur de rennes, le côté tout ça. Là, à Hammerfest, on est dans une autre dimension. Donc déjà, ça titille le romancier, le journaliste aussi d'ailleurs, mais le romancier encore plus. Et ce qu'il y a en plus de particulier avec cette île, c'est que c'est une île qui... sur laquelle les éleveurs de rennes font transhumer une partie de leurs rennes. Il y a certains districts d'éleveurs de rennes de la région de Kaitokeno qui envoient, qui laissent paître leurs rennes pendant l'été. C'est-à-dire que cette île sert de pâturage aussi pour les rennes. Et ça veut dire qu'il y a conflit tout simplement entre ces deux intérêts, entre les éleveurs de rennes d'un côté, les rennes qui cherchent les derniers pâturages qu'il y a, parce que c'est une île qui est très rocailleuse, qui est très abrupte. Il y a tout un plateau, mais qui est un plateau qui est battu par les vents. Donc le côté habité de l'île est très, très, très limité. Et donc pour se développer, pour pouvoir permettre aux industriels de se développer, il faut gagner sur quelques-uns des rares pâturages, donc conflit. Et donc, de fait, il y avait une matière là, une matière à travailler.
Justement, le Détroit du Loup s'ouvre sur une scène, la scène inaugurale. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir lu, mais la scène inaugurale est très très forte, puisque justement, telle que la couverture aussi l'illustre, c'est la transhumance, la période de transhumance des rennes. Il va se passer un drame, le premier accident, le premier drame, le premier meurtre peut-être. On ne sait pas. Est-ce que cette transhumance, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus ce qui se passe dans cette première scène?
Alors c'est une scène.
Est-ce que vous y avez assisté vous-même à la transhumance?
Oui, tout à fait. Oui, j'y ai assisté. Je l'ai filmé pour un documentaire que je faisais sur la police des rennes. Et j'ai assisté au passage d'un troupeau de rennes à la nage, donc qui partait justement de la. Qui revenait. C'était à l'automne, donc qui revenait de l'île. Pour vers la terre ferme. Et de fait, les rennes se mettent à l'eau comme ça. C'est les rennes qui décident eux-mêmes quand ils le font. Donc les rennes se mettent à l'eau, ils nagent, ils sont portés. Ils sont portés notamment parce que le poil de renne, comme vous ne l'ignorez pas, est creux et rempli d'air. Donc il flotte très bien, le renne. Et puis en plus, il nage bien. J'ai assisté de fait. Et donc, voilà, ils traversent. Mais ce qui peut se passer, c'est que le renne est un animal très craintif. Suivant les troupeaux, mais souvent très craintif. Ça veut dire que s'il y a un moindre signe, un geste qui lui fait peur, n'importe quoi, il va faire demi-tour. Et alors, quand il fait demi-tour en traversant un bras de mer, comme ça, il commence à tourner en rond, le troupeau, et en tournant en rond, ça fait un tourbillon. Et les rennes sont entraînées dans le centre du tourbillon. Donc, ils se noient. Et donc, il y a des éleveurs qui, en général, sont là, qui attendent, qui sont planqués, qui sont cachés dans des petites barques pour surveiller que tout se passe bien. Et de fait, c'est ce qui se passe dans la scène inaugurale du livre. C'est le troupeau traverse. Quelque chose se passe qui fait que les rennes commencent à faire leur ronde. Et un éleveur qui est là, Eric Stego, qui attendait dans sa barque, voit que la seule solution pour lui d'empêcher la noyade des rennes, c'est de foncer avec sa barque dans ce cercle, pour briser le tourbillon, afin que les rennes se dispersent. Et c'est ce qui se passe, si ce n'est que, on peut le dire, Eric se noie au cours de cet incident.
Ça va être tout l'objet aussi de le premier meurtre de ce roman et l'objet de la.
C'est un accident.
Oui, alors de cet accident, de ce drame, on va être plus vague, plus général. De cet accident qui semble être le déclencheur et même, ouais. L'objet même rêvé, enfin pour que la police des rennes entre en scène.
Exactement. Alors c'est vrai que j'ai assisté à des scènes comme ça. Il y a eu des faits divers comme ça quand j'ai travaillé sur la police des rennes. Il y a eu des faits divers comme ça avec des histoires de noyades où la police des rennes de fait intervient puisque ça repose sur cette partie documentaire et où la police des rennes va enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé.
Et pas n'importe quelle police des rennes. On entre en scène. Alors même si on ne connaît pas, même si on n'a pas lu Le Dernier Lapon, on peut lire totalement Le Détroit du Loup puisque c'est vraiment un roman indépendant.
Ouais.
Et alors, comment sont nés dans votre imagination, puisque vous êtes journaliste à la base, vous connaissez très bien la matière, vous connaissez très bien ce thème. Vous êtes journaliste notamment pour Le Point, Le Monde.
Surtout Le Monde, maintenant.
J'ai arrêté. Le Monde. Ah, d'accord. Pour Le Monde, vous êtes grand reporter. Vous avez fait des documentaires pour la télévision sur la police des Rennes, sur La Dernière Plongée. On y reviendra. Et comment est-ce que vous êtes. Comment sont nés dans votre imagination les personnages de Clémette et Nina? Qui sont-ils?
Je vais vous décevoir, en fait, j'ai assez peu d'imagination.
Ah.
Quand j'ai rencontré la police des Rennes, c'était il y a 10 ans à peu près, j'étais en reportage pour, à l'époque, je travaillais pour Libération encore, c'était juste avant que je démarre pour Le Monde en 2005. Et je faisais une série de reportages pour la série d'été de Libé, donc 6 reportages sur la police des Rennes. Et au cours d'un de ces deux, donc je suivais ces flics en patrouille, et une des patrouilles était constituée d'un flic Samy, norvégien, donc lui, mais qui était Samy, qui était un homme un peu plus âgé, on va dire, qui avait déjà 55 ans à peu près par là, et sa collègue était une jeune norvégienne du sud de la Norvège, qui avait été boursière pour intégrer l'école de police. Et comme en tant que boursière, elle n'avait pas le droit de choisir son affectation. Et aucun flic norvégien censé ne veut être affecté en Laponie. Donc elle s'est retrouvée envoyée en Laponie. Et voilà. Et donc c'était. Et comme tous les Norvégiens ou les Suédois ou les Finlandais du Sud, ils ignorent absolument tout de la culture Sami, ils connaissent pas le Grand Nord et puis ils s'en foutent et voilà. Donc elle s'est retrouvée là-bas et comme ma Nina en fait. Hein, donc je me suis vraiment inspiré en grande partie, pas seulement. Après j'ai brodé évidemment, mais disons que c'est un couple voilà qui m'avait passionné parce que il offrait de tels contrastes. Bon, après j'ai poussé certains, j'ai développé des personnages à partir, mais ça m'a servi vraiment de ces deux-là, m'ont servi de base en fait. Et je trouvais que Nina, parce que je reviens sur le personnage du roman maintenant, qui a cette origine-là, et j'ai emprunté donc en partie l'origine de cette policière. Ça permettait de faire de Nina nos yeux, nos oreilles à nous qui ignorons tout de ces coins-là. Ça veut dire qu'elle va se comporter comme nous on se comporterait en arrivant là-haut, c'est-à-dire en posant des questions finalement très, très simples, très basiques, en réagissant sans connaître les codes du Grand Nord. Elle va s'indigner là où quelqu'un de là-haut ne s'indignerait pas. Voilà. Et Clémette, lui, c'est un personnage qui est à l'inverse, est d'origine Sami. Dans mon livre, j'en fais un personnage qui est moitié Sami, moitié suédois, qui vient d'une famille, lui, d'éleveur de rennes, mais dont c'était son grand-père qui était éleveur de rennes. Et son grand-père a été chassé du milieu, comme l'ont été au fil des décennies beaucoup d'éleveurs qui, pour des raisons diverses et variées, soit à cause d'une famine ou des troupeaux qui disparaissent, des vols, des choses comme ça. Il y a des éleveurs comme ça qui sont poussés hors du monde de l'élevage et qui deviennent. Ils vont bosser chez des paysans, ils vont devenir pêcheurs ou autre chose. Et le grand-père de Clémette, c'est ça. Il a été poussé en dehors. Et Clémette. Donc, il a ce problème d'identité, lui, à savoir, il vient de ce monde par son grand-père, mais il n'en fait plus partie. Et chez les Samis, il faut bien comprendre que il y a une hiérarchie quand même non écrite, à savoir un vrai Sami. Enfin, le dessus du panier, ce sont c'est les grands éleveurs, c'est les éleveurs de rennes, c'est l'aristocratie chez les Samis, et ça veut dire que les autres. Y a un problème, on les regarde un peu de haut, voilà. Et Clémette, il a ce problème-là, il se débat un petit peu avec qui suis-je, d'où vais-je, et puis il se heurte surtout à des éleveurs dans son boulot de flic, puisque le boulot de police des Rennes, c'est vraiment travailler avec les éleveurs, mais il se frotte à des éleveurs qui lui disent, mais attends... Voilà. D'où tu viens, toi ? Tu étais un Sami de deuxième zone, quelque part.
Et la police des Rennes est une police, on l'apprend nous-mêmes, qui existe vraiment. Et comment, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment elle est née, cette police ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ?
On a quelqu'un, tout le monde sait, là.
Tout le monde sait comment est née la police des Rennes ?
Non, la police des Rennes, c'est vraiment un machin de...
C'est pas votre imagination, là.
Là, c'est pas mon imagination. Je les ai touchés de près. J'ai vécu avec eux, en plus. Non, c'est une police qui est née juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Norvège était occupée par les Allemands. La Laponie, notamment, il y avait beaucoup de troupes qui étaient stationnées en Laponie norvégienne pour faire face à l'armée soviétique, à l'armée rouge, côté Mourmansk. Hitler voulait envahir Mourmansk pour contrôler tous les ports de l'Arctique que les navires américains alimentaient en armes et en matériel. Donc, à la fin de la guerre, quand les Allemands se sont retirés, ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Donc, les populations étaient évacuées, il n'y a plus rien à manger. Et ceux qui restaient là encore sur place se nourrissaient, notamment en volant des rennes, tout simplement, pour survivre. Donc, au bout d'un moment, les éleveurs en ont eu un petit peu marre. Donc, c'est dans ce contexte-là que la police des rennes a été créée en 1949. Voilà. Donc, le gros de leur boulot, c'est vraiment la prévention la prévention de tout ce qui est conflit lié à l'élevage de rennes, que ce soit entre éleveurs et paysans, ou entre éleveurs entre eux aussi, hein, puisque il y a beaucoup de conflits entre éleveurs. Alors, elle existe, cette police des rennes en Laponie, norvégienne, et moi, dans mon bouquin, j'ai décidé d'étendre leurs prérogatives à la Laponie suédoise et à la Laponie finlandaise. Voilà.
Et c'est une police de proximité.
C'est une police de proximité sur une surface de 400 000 km². Donc c'est assez surprenant comme façon de faire de la police, parce que c'est vrai que si vous regardez, imaginez, donc ils patrouillent en scooter des neiges ou en quad ou je sais pas quoi, en bagnole bien sûr, parfois ils font des patrouilles en hélico, mais en hiver par exemple, moi je les ai suivis en hiver en patrouille par moins 30, on partait pour plusieurs jours, on partait bivouaquer dans les petits abris, justement les petits goumpis, là, les petits abris de la police qu'ils ont un peu partout sur la toundra. Et s'il fait moins 30, moins 35, il y a une tempête de neige, qu'un éleveur appelle en disant j'ai un autre éleveur là qui m'emmerde avec son troupeau sur mon territoire, les flics, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre ? Et on arrive dans deux jours ou dans... Voilà, donc tout ça pour dire qu'ils sont... le flagrant délit, ils ne connaissent pas. Ils sont totalement ridicules de ce point de vue-là. Donc, ils en développent. De fait, une police, une espèce d'îlotage sur des surfaces immenses où, ils essaient d'anticiper les conflits plutôt. Ils essaient ils sont beaucoup au contact des éleveurs pour essayer de voir où est-ce que c'est tendu entre deux clans, où est-ce qu'il y a conflit potentiel pour essayer de les anticiper, d'essayer de les résoudre avant, quoi. Ils font la prévention plutôt. C'est des médiateurs de la toundra, les diplomates de la toundra.
Et donc, dans ce contexte, après cet accident dramatique qui ouvre le roman, on va être plongé dans un autre monde. On va plonger sous la terre, en pleine mer.
Sous la mer,
oui. Vous avez voulu aussi explorer un autre monde dans le détroit du Loup qui n'était pas dans le dernier Lapon. Est-ce que ce monde de la plongée des plongeurs?
J'avais pas envie de faire d'abord un dernier Lapon bis, donc j'avais envie de me démarquer pas mal du dernier Lapon en introduisant donc un nouvel univers. Et c'est un nouvel univers, celui du pétrole et du gaz, et celui de la plongée, que j'ai emprunté en grande partie à ce qui se passe en mer du Nord, à tous les développements qu'il y a en mer du Nord, que j'ai suivi moi en tant que journaliste depuis 20 ans. En travaillant en écrivant sur les développements pétroliers gaziers, en allant faire un documentaire aussi d'ailleurs pour France 5 sur ces anciens plongeurs, en ayant été sur une plateforme, en ayant rencontré beaucoup d'anciens plongeurs aussi pour les besoins de ce documentaire et d'un livre que j'ai publié en, en Suède et en Norvège, qui était un livre de journaliste, pour le coup. Mais avec des histoires dramatiques, moi, qui m'ont énormément touché, sur le plan journalistique, mais personnel aussi, parce que c'était des témoignages extrêmement durs d'anciens plongeurs qui ont été sacrifiés par l'État norvégien. Et c'est une histoire que j'ai eu envie de raconter. Je n'avais pas nécessairement envie d'en faire un roman à l'état pur sur ces anciens plongeurs, puisque j'avais déjà fait un document, mais j'avais envie d'y retourner par le roman quand même. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mélanger du coup ces deux univers.
On a l'impression que ces plongeurs qui ont été sacrifiés ressemblent pour une grande partie aux éleveurs qui eux-mêmes ont été qui sont mal considérés, qui ont été trahis, sacrifiés au nom du soi-disant progrès. Est-ce que vous aviez conscience de l'écriture que c'était deux mondes qui se regardaient autant en fait?
C'est ce dont j'avais conscience en écrivant Le Détroit du Loup et en choisissant d'opposer, mais en même temps d'accoler ces deux univers, c'était que aussi bien les éleveurs que je décris, les éleveurs qui sont considérés comme des gêneurs dans ces coins-là, et ces plongeurs de l'industrie pétrolière, ce sont deux populations qui, d'une certaine façon, sont été sacrifiés au nom de l'intérêt collectif pour le bienfait des États-providence nordiques, en l'occurrence de la Norvège essentiellement. Mais c'est aussi un petit peu mon envie, moi, en tant qu'auteur. En ce sens-là, c'est un prolongement de mon boulot journaliste que j'assume, même si ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Mais j'assume vraiment ce côté-là, c'est-à-dire de raconter finalement les dessous, la face cachée de ces fameux modèles dont, par ailleurs, je vous raconte tous les bienfaits dans le monde.
Et justement, dans ce monde, on va voir plusieurs personnages, notamment un plongeur qui va être chargé de repêcher le corps de
Nils Ormi.
Voilà, ouais. Nils Ormi, le plongeur. C'est lui-même un Sami.
C'est lui-même un Sami, mais il ne le revendique vraiment pas. Alors, il a ceci de particulier, Nils, c'est un copain d'enfance de Eric. Eric, c'est ce berger donc, qui se noie en début de livre. C'est un copain d'enfance Ils sont copains d'enfance, Nils et Eric. Donc, ils ont à peine plus de 20 ans. Et ils ont... Eric, lui, était tout à fait dans la tradition de l'élevage de rennes, mais qu'il essayait de moderniser avec l'aide de sa jeune épouse Anneli. Nils, c'est un plongeur qui a été fasciné très jeune par ces plongeurs de l'industrie pétrolière qui débarquaient, qui pour lui étaient des surhommes, des héros, tout gamin. Donc il a voulu devenir comme ça, plongeur comme eux. Et très vite, très très gamin, il a été élevé. Lui, sa famille l'a sorti pour des raisons qui sont explicitées dans le bouquin. Il a été sorti du milieu sami. Il a été élevé sur la côte. Il a été élevé dans un milieu différent, donc de celui des éleveurs de rennes. Et puis surtout, il rejette ce milieu-là. Pour lui, c'est des cutéreux, les éleveurs de rennes. C'est des types qui sont voilà, qui sont. Il veut surtout pas qu'on lui rappelle qu'il est sami. Et les compagnies pétrolières, parce que ça, à côté de ça, c'est un excellent plongeur. C'est sans doute le meilleur plongeur d'Hammerfest, qui prend des risques. Il est toujours en binôme avec son copain Tom Paulson, qui forme un couple comme ça, très très uni, comme tous les plongeurs qui sont toujours en binôme à la vie, à la mort. Et Nils, bien, il va comme ça se découvrir en fait. Bon, on peut pas trop pas raconter, mais disons qu'il est dans le refus de son héritage sami totalement.
Mais ce qui va être intéressant, et sans en dire plus, c'est que ça va évoluer pour lui. Il va y avoir une forme de métamorphose petit à peu dans le roman. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans votre univers, c'est que il n'y a pas d'un côté la tradition, de l'autre côté la modernité, d'un côté les samis, de l'autre côté les non-samis, de cette façon. C'est que même dans le groupe des samis, il y a des personnalités et des individualités extrêmement différentes et qui n'ont pas du tout la même vision du monde et des traditions du passé et du présent et de l'avenir. C'est ça qui est vous arrivez à faire plusieurs,
J'avais pas envie de tomber dans la caricature des gentils samis contre les méchants norvégiens voilà, le côté un peu western. Parce que pour avoir quand même traîné pas mal là-bas, même si je n'habite pas en Laponie, j'habite à Stockholm, mais pour avoir traîné beaucoup là-bas, je sais aussi que c'est une zone grise, quoi. Y a pas de... les gens se battent pour survivre, ils rendent les coups, même les samis. C'est un éleveur sami qui m'avait dit un jour, tu sais, sur la toundra, il n'y a pas d'enfant de cœur. Et je pense que décrire du coup les Samis comme des pauvres victimes qu'il faut protéger face à ces méchants Norvégiens, méchants Suédois, c'est pas être honnête vis-à-vis d'eux, parce que c'est pas des gens qui sont, il y en a certains qui sont victimes, mais tous le sont pas, il y en a qui sont prêts à rendre des coups, il y en a qui sont pas toujours très très, moi je n'ai rencontré des Samis, des éleveurs, c'est des voleurs. Donc il y a des familles qui sont connues pour ça. Donc c'est un milieu qui est très compliqué, où il y a des choses extraordinaires. Il y a un rapport à la nature, il y a une harmonie comme ça qui est phénoménale. Il y a un choix de mode de vie qui est fascinant. Et puis il y a des voyous chez eux aussi, quoi. Voilà. Donc il s'agit pas de jeter l'opprobre. Il s'agit pas de faire tomber dans la caricature. C'est un peu trop facile, je trouve, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ce que j'avais envie de faire, parce que une fois encore, j'ai pas mal traîné là-haut et je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, est-ce que vous arrivez aussi à faire, à prolonger par rapport au dernier Lapon, c'est le rapport au sacré, qui est très intéressant, qui est très important pour vous, apparemment.
C'est très important pour eux. C'est très important pour eux parce qu'ils ont. Il faut comprendre que les Samis, le peuple Sami, là je parle du peuple Sami ancien, d'avant la colonisation. C'est un peuple qui avait épousé la religion chamanique, donc c'était une religion de la nature où le sacré est partout. Et les Samis qui à l'époque ne vivaient que de l'élevage de rennes, à l'époque où ils étaient encore nomades, ils faisaient que passer sur les pâturages, ils revenaient, donc il y avait un respect de tout ça, et ils avaient leur lieu sacrificiel, leur lieu à offrande qui parsemait toute la Laponie, qui existe toujours évidemment, tous ces lieux-là. Mais donc c'est vrai qu'ils ont un rapport au sacré avec le côté chamanique, les chamans avec leurs tambours qui communiquent avec les morts, qui communiquent, etc.
Ça, c'est dans le dernier Lapon.
Ça, c'est le dernier Lapon, mais c'est un peuple qui est habité de sacré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce côté sacré-là, il n'est plus du tout aussi présent. D'abord parce que les chamans, la Laponie a été colonisée à partir du XVIIe siècle, colonisé par les pasteurs luthériens notamment. On n'a pas massacré les Samis comme ça a pu être fait en Australie ou en Amérique du Nord, mais il y a une colonisation bureaucratique, on va dire, pour résumer, on envoyait les pasteurs aussi, donc on brûlait les tambours, etc. Donc il y a eu... ça veut dire que les Samis, pendant 2-3 siècles, ils ont été opprimés de cette façon-là, et d'une certaine façon, cette colonisation a réussi puisque la plupart des Samis aujourd'hui sont protestants, ils sont luthériens, certains sont lestadiens, etc. Ils sont détournés du chamanisme, mais ils restent, et c'est là pour revenir sur la question, ils restent, moi je trouve en tout cas, un chamanisme, une sorte de chamanisme culturel qui est encore très très présent. Ces rochers sacrés, ils sont toujours respectés, on sait où ils sont. On sait où ils sont. Ils sont parfois cachés dans la toundra. Ça peut être un tas de cailloux. Il faut être sami pour le savoir. Mais on sait où ils sont. C'est-à-dire qu'il y a encore cette connaissance. Elle est toujours présente. Voilà. Mais en même temps, on n'en parle pas. On ne s'en gargarise pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'au nom de ces pierres sacrées, de cette approche-là, on a été opprimé. Et ça reste ancré dans ce peuple.
Et ce rocher sacré, justement, il est aussi... au pied du détroit du Loup, enfin juste à côté, il va être aussi l'objet.
Il existe en vrai. Hein,
il existe en vrai, d'accord. Rocher. D'accord. Et c'est vrai qu'il va être l'enjeu aussi d'une convoitise pour pouvoir le déplacer. Est-ce que c'est vrai ça aussi ? Est-ce que les autorités veulent
pas
le déplacer pour...
Je ne sais pas. Je ne dirais pas.
Donc en tout cas dans le livre, il en est question pour pouvoir élargir la route et construire encore.
Ce qui est vrai, c'est qu'Amafest a des gros projets de développement. C'est qu'ils doivent construire un nouvel aéroport parce qu'ils ont un projet de doubler la capacité gazière d'Amafest, de construire une nouvelle île artificielle. Dans mon livre, je fais comme si c'est déjà le cas, mais c'est un projet qui est réel. Et pour ce projet-là, et ça, ce sont les gens de la commune d'Amafest qui me l'ont dit, parce que je les ai rencontrés, ils ont besoin de construire un nouvel aéroport sur l'île de la Baleine. Et pour faire ce nouvel aéroport, ils ont besoin d'empiéter sur des pâturages. Donc tout ça, ça repose sur du réel, sur du prospectif en partie, mais c'est du réel.
Et pour parler du monde des croyances, des traditions, il y a un campement aussi qui est important avec des éleveurs et notamment une femme, vous en avez parlé tout à l'heure, qui s'appelle Anne-Lie.
Oui.
Qui est-elle, Anne-Lie? J'ai l'impression que dans vos livres, que ce soit dans le Daniel Lapont ou les Trolls du Loup, les femmes, de façon générale, Nina aussi en fait partie, ont un rôle très important. Est-ce que ça, c'était quelque chose d'important pour vous?
Mais c'est sympa, les femmes, non?
Ah, c'est sympa.
J'aime bien.
Mais on a l'impression vraiment qu'elles jouent un rôle primordial.
Anne-Lie, c'est vrai qu'elle joue un rôle primordial parce que d'abord, là encore, je vais vous décevoir, je fais preuve d'un manque total d'imagination, mais Anne-Lie, elle repose sur une personne, j'ai extrapolé une fois encore, mais sur une personne que j'ai rencontrée un jour, une jeune éleveuse de rennes, elle était à moitié éleveuse de rennes, à moitié enseignante. Je l'ai rencontrée dans le cadre d'un procès, des éleveurs de rennes et des paysans, à la Cour suprême de Stockholm, et j'ai été complètement ébloui par cette jeune femme qui était une poète, qui avait une façon de parler qui était totalement lumineuse, et elle m'avait, voilà. Alors elle était en plus à la Cour suprême de Stockholm, quand elle se mettait à la barre, tout ça, elle était habillée en costume sami traditionnel, et elle était blonde, coiffée comme une punk. Donc c'était un personnage inoubliable, quoi. Il fallait en faire quelque chose de celle-là. Et c'est vrai que les femmes sont importantes parce que il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les hommes, les jeunes hommes notamment, chez les éleveurs de rennes, c'est d'abord une des professions les plus dangereuses en Europe du Nord. C'est là où il y a le plus d'accidents du travail, beaucoup de morts. Et il y a aussi un taux de suicide très important parmi les jeunes éleveurs de rennes. Donc, parce qu'ils sont soumis à énormément de pression, parce qu'on attend beaucoup d'eux, de justement la transmission de la tradition, tout ça. Et vu toutes les pressions qu'il y a sur l'élevage de rennes, des industries pétrolières, minières, touristiques, tout ça, ben, ils n'en peuvent plus, les mecs. Donc c'est vrai que les femmes, du coup, moi j'en ai rencontré pas mal, des samis, des femmes samis là-bas, qui sont, ben, c'était un petit peu à elles, du coup, aussi, elles ont un rôle encore plus de devoir prendre le relais pour essayer de défendre un mode de vie, pour essayer elles ont ce rôle parce que les hommes, on a l'impression, beaucoup, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est un milieu très macho. Donc, ça repose beaucoup, la survivance de ce milieu repose beaucoup sur eux. Et là, c'est tellement extrême en ce moment que les femmes doivent prendre le relais. Mais elles ont, après, elles ont joué un rôle toujours. Parce que à l'époque, avant la période de la mécanisation, les années 1960, où les scooters des neiges sont arrivés et ont changé dramatiquement tout ce qui est élevage de rennes, c'est-à-dire... où les samis, du coup, ont renoncé au nomadisme pour se sédentariser. Jusque-là, quand les hommes partaient faire les bergers pendant des semaines et des semaines dans la toundra, dans la montagne, avec leurs skis, ben c'est les femmes qui faisaient non seulement tourner les campements, mais qui devaient parfois aussi aller chasser, tout ça. Donc elles avaient un rôle très, très important, quoi, pour la survie de tout le clan.
C'est les gardiennes aussi, donc, d'une certaine forme aussi de tradition, quoi.
Tout à fait.
Et Nina et Clémette, pour revenir sur ce duo extrêmement attachant. Enfin, j'espère que, j'imagine que ceux qui ont déjà lu Le Dernier Lapin ou même Le Détroit du Loup le perçoivent encore, ce duo sympathique, ce duo de ces flics de choc en même temps. Ils ont aussi un passé particulier qui va rejoindre l'enquête, parce que pour Nina, il va s'agir aussi d'une quête qui va se doubler. Et pour Clemets, ça va le ramener à ses propres origines. Comment vous êtes arrivé à tisser à la fois les problèmes intimes de ces deux personnages avec votre intrigue?
Là, pour expliquer ça, ça va être compliqué. C'est le... Non, mais le... Je ne sais pas.
Parce que Nina, elle a une absence dans sa vie. C'est son père.
Nina, elle est donc... j'avais planté une petite graine dans Le Dernier Lapon en disant... c'est marrant parce que la plupart des gens ne s'en rappellent pas. Que son père était non seulement un ancien chasseur de baleines, mais avait été aussi plongeur. Mais je n'avais pas du tout développé ça. Mais j'avais planté une petite graine parce que j'avais en tête, ça pourra peut-être me servir si je fais un bouquin. J'avais en tête Le Détroit du Loup, je n'étais pas sûr de le faire encore à ce moment-là, mais voilà, j'avais planté ça. Et donc, je savais quelque part que Nina, avec un père comme ça, parce que par contre, je connaissais bien le milieu des plongeurs, donc je savais. Et le portrait du père de Nina qu'on va découvrir plutôt dans Le Détroit du Loup est un personnage qui est constitué de plusieurs anciens plongeurs que j'ai connus longuement, qui sont des gens fracassés quand même. Ceux que j'ai connus, c'est des fracassés. Ils ont été fracassés par la plongée. Ils étaient peut-être fracassés avant pour certains d'entre eux d'ailleurs, mais en tout cas, ils l'ont été complètement par la plongée. Et donc, il fallait ensuite trouver. Je voulais créer un personnage qui soit représentatif, à mon sens, des cas extrêmes que j'ai. Voilà. Donc, il fallait qu'on apprenne à connaître, à découvrir ce lien avec son père. Pas d'un coup. Il fallait que ça se fasse petit à petit. Et il fallait qu'on comprenne que tous ces plongeurs-là, parce qu'il y a d'autres plongeurs qui sont impliqués dans le livre. C'était des gens qui ont une histoire très lourde, mais qui c'est pas des histoires qui balancent comme ça, parce que c'est des gens qui ont été pour caricaturer, ça a été des super-héros, et puis on les retrouve à l'état d'épave quelques années plus tard. Donc il fallait tout ça, que ça se construise doucement, tranquillement, mine de rien, avec les différents stratagèmes que j'ai utilisés dans le livre pour ça, mais à travers des personnages, à travers des lettres, à travers des choses comme ça. Et pour Clemette, c'est son histoire. Ça passe par les personnages. Clemette, on va dire le Dernier Lapon, on va dire, c'est un petit peu le livre de Clemette, et le Détroit du Loup, c'est le livre de Nina, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus l'histoire de Nina qui est exposée. Et pour découvrir le personnage du père de Nina, il va falloir passer par le personnage de la mère.
Alors là, c'est pas le même personnage que la douce Anneli.
C'est pas la douce Anneli.
Garder une autre tradition.
Voilà. Et c'est une. Alors la mère de Nina, elle nous emmène du coup dans un petit village du sud-ouest de la Norvège, là où Nina a grandi, donc au fond d'un fjord. Et c'est quelqu'un de très extrêmement rigide sur le plan. C'est une région de la Norvège où on appelle un peu ça la ceinture biblique, c'est-à-dire ce sont des coins qui sont très très traditionnalistes sur le plan. C'est des protestants vraiment assez traditionnalistes et évangélistes. Alors, il y a différentes chapelles bien sûr chez les protestants. Et c'est vrai que ce sont des gens. Il y a certaines églises libres qui sont des églises qui sont très très dures. Et donc Nina, elle a grandi dans ce milieu-là. Elle doit retourner voir sa mère, en fait, pour découvrir où est son père, puisque son père a disparu de la circulation, mais elle a besoin de le retrouver pour les besoins de l'enquête. Et voilà, et le retour, les retrouvailles avec sa mère sont très pénibles, très dures, parce que la mère est un personnage totalement inflexible. Et voilà, et c'est, elle va découvrir un petit peu aussi que le lien qui avait été coupé avec son père, en fait, n'était pas le fait de son père, peut-être, mais d'autres choses.
Et justement, comment les, est-ce que les, ce qu'on a envie de vous poser comme question, c'est est-ce que les Scandinaves, les, ou les Lapons, ou même les Samis, ont connaissance de votre, de vos romans?
Alors, il commence parce que le dernier Lapon a été sorti en finnois déjà depuis un an. Il est sorti au mois d'octobre 2013. Donc, il est sorti en norvégien ce printemps. Et il est sorti en suédois il y a 2 semaines.
Pas en Sam.
Non, pas en Sam, non.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence qu'on fait entre Sam et Lapon?
C'est uniquement alors le... Lapon. Alors Sami, c'est le terme que les Samis emploient eux-mêmes. Et en Suède, en Scandinavie, ils emploient ce terme-là, et les Scandinaves emploient ce terme-là en principe. Lapon, mais il y a l'équivalent du mot lapon aussi dans les langues scandinaves. Et lapon, ça vient d'un mot qui veut dire haillon, en fait, porteur de haillon. Donc qui a pris un côté péjoratif avec le temps. Donc depuis les années 60-70, en fait, depuis l'époque où les Samis, il y a eu une prise de conscience politique, il y a eu vraiment dans le sillage de la décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale, il y a tout le phénomène de décolonisation qui se fait à travers le monde entier. Et notamment, les Samis, quelque part, bénéficient aussi de ça. Donc, il y a une espèce de... Ils redressent un petit peu le menton. Et donc, à partir de cette époque-là, on emploie le terme Sami dans les pays nordiques et non plus le mot lap, lapar, lapar, lapana, ou lapisque, quelque chose comme ça. Mais, une fois que j'ai dit ça, l'équivalent du mot lapon est encore utilisé dans les pays nordiques, mais en général dans un cadre discriminatoire, raciste, tout ça. Parce que là, il y a encore beaucoup de racisme aujourd'hui vis-à-vis des Samis.
Et est-ce que puisque vous êtes maintenant le maître du polar lapon, quoi, puisqu'on peut dire, est-ce que les autres, les Scandinaves, ceux qui se, un peu ont mainmise sur le roman policier, le genre du roman policier, est-ce qu'ils vous considèrent comme un des leurs?
Alors là, bonne question. Je sais pas, non, je crois pas. Je crois que c'est trop neuf encore. Et puis, je sais pas, ils veulent tellement protéger leur petit royaume de ridicule de polar 2 scandinave là. Ils n'ont pas compris qu'il y a une nouvelle vague qui arrive maintenant, mais j'essaie de les prévenir maintenant. C'est fini les polars suédois là. C'est...
Mais il est vrai qu'à un moment vous appeler Truxson sur la couverture.
Oui, j'avais pensé Truxson, un pseudo, Olaf Truxson, je sais pas. On peut mettre au vote, qu'est-ce que vous en pensez, Olaf Truxson, non ? C'est crédible, ça le fait, non ?
Il est vrai qu'en effet, on serait totalement fait avoir, quoi. Il y a une, on croirait vraiment que c'est écrit par quelqu'un du pays. Et est-ce que vous pourrez nous est-ce qu'il existe aussi, on se pose la question parce que vous qui êtes spécialiste, est-ce qu'il existe aussi une littérature, enfin, on imagine une littérature Sam?
Il y a une littérature Sam, bien sûr, que je la connais très très mal, mais j'ai lu certains auteurs Sam, mais qui sont pas d'ailleurs. Mais qui sont extrêmement documentaires, en fait, sur le monde du Rennes, etc. J'en parlais avec un auteur suédois ou norvégien il n'y a pas très longtemps, et il constatait qu'en fait, il y a quand même un gros déficit d'auteurs, Sam. Ouais.
D'accord, et donc vous êtes peut-être le premier, presque.
Non, je ne dirais pas, je suis le premier. Pour le polar, mais non, mais disons qu'il y a des... c'est que c'est pas il y a un tel déficit parce que c'est une langue qui n'est les langues samis, il y en a plusieurs des langues samis, mais elles sont écrites que depuis un siècle en plus, donc ils ont tellement de choses à rattraper aussi, donc faire du polar c'est peut-être pas leur priorité, quoi.
Et justement comment
mais ils y viendront c'est sûr, c'est...
Comment on vient en étant journaliste à vouloir être romancier? Romancier de polar, en plus. Est-ce que c'est un goût ? Est-ce que c'est une...
Non, parce que je suis très peu lecteur de polar, en fait.
Ah, en plus.
Ça fait 28 ans que je suis journaliste, maintenant. J'ai toujours... Enfin, moi, je suis devenu journaliste pour raconter des histoires, pour rencontrer des gens et raconter leurs histoires. C'est ça qui m'a toujours intéressé. Donc, après, quelque part, le passé du reportage et du grand reportage au bouquin de journaliste, il y a déjà un pas qui se franchit. Et déjà, quand j'ai franchi ce pas-là, avec les deux premiers bouquins que j'ai faits, qui sont pas des romans, le premier était publié en 2006, il y a déjà une écriture qui est différente, il y a une mise en scène de l'actualité, enfin de l'information, qui est différente que dans un reportage pour un journal, puisqu'il faut un souffle, il faut du souffle pour un bouquin. Donc il faut une mise en scène qui est différente, une dramaturgie qui est différente. Donc déjà, sans m'en rendre compte à l'époque, j'ai franchi un pas. Et le premier livre que j'avais écrit, qui était un document, une espèce de portrait, une enquête plutôt sur un rescapé du goulag qui avait en gros réécrit toute une partie de sa vie pour sauver sa peau. Mon éditrice à l'époque avait essayé de me convaincre d'en faire un roman, tellement l'histoire de ce type était romanesque, et elle l'était, et moi je ne me sentais pas d'en faire un roman. Par respect par rapport à l'homme, par rapport à son histoire qui était vraiment dramatique. Et puis je me sentais pas dans les voilà. Mais j'en ai fait un bouquin, mais elle avait planté sa petite graine aussi. Et ensuite j'ai fait ce bouquin sur les anciens plongeurs, qui est aussi un bouquin d'enquête de reportage à partir de plusieurs dizaines d'interviews, de portraits, de reportages avec j'ai écrit coécrit avec un ami journaliste suédois. Et là encore, on avait pris un parti de journalisme narratif, un petit peu de dramatisation de ce qui se passait. Tout ça reposant sur des faits, recouper tout ça. Mais dans l'écriture, c'était déjà, ça se rapprochait. Je pense déjà, je tombais de plus en plus vers ça. Et ensuite, quand je suis parti faire mon documentaire, mes articles sur la police des Rennes, je m'étais tellement régalé à faire ces sujets, j'avais tellement d'images en tête, j'avais tellement de personnages, d'atmosphères, de plein d'histoires que j'avais envie d'y retourner par l'écriture. Et au départ, c'était le projet de... Je me suis lancé dans l'écriture, dans un projet plutôt de livre de reportage sur la police des Rennes. Je lisais à l'époque, je venais de finir de lire Les racontars arctiques de Jørn Riel, un Danois, un chercheur danois qui a vécu pendant, je crois, au moins 16 ans au Groenland et qui en a ramené des histoires savoureuses d'un pays où il ne se passe rien, qui est tout blanc, où il n'y a personne. Il en raconte des histoires extraordinaires. Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire des chroniques de la police des Rennes. Et puis ça a dérapé en polar, voilà, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose entre-temps.
En tout cas, c'est extrêmement, extrêmement réussi. Et on peut espérer peut-être un troisième opus.
J'y travaille.
Toujours avec les mêmes personnages ?
Toujours avec... oui. Alors en même temps, comme je suis vraiment au tout début, je suis dans la partie recherche, vraiment enquête, là, depuis 6-8 mois. J'ai commencé un peu à élaborer l'intrigue, mais pas trop. Donc, je sais pas, peut-être que je vais noyer Nina ou Asse, je sais pas quoi. J'ai pas décidé encore. Je sais pas, là aussi, on peut mettre au vote. Non, je sais pas. Donc, mais il y aurait, oui, après, au départ, en tout cas, il y a Clément et Nina. Ils sont là, bien sûr. Ça se passe toujours donc en Laponie, dans le sud de la Laponie, cette fois-ci côté suédois, donc. Mais là, je suis vraiment dans une phase où je rencontre des tas de gens partout, des spécialistes de différentes spécialités dont je ne peux pas vous parler bien pour sûr. L'instant. Et voilà.
Donc c'est d'abord votre métier de journaliste qui vous a...
C'est là, je
suis... Qui est le cœur de votre
là,
métier.
Là, je suis dans la phase journalistique du boulot que j'adore. Moi, je me régale avec ça. Donc c'est vrai que je suis dans une phase où j'aborde des disciplines que je connais pas, donc je me documente énormément pour pouvoir les digérer et pour pouvoir ensuite les utiliser dans mon livre de telle façon que ça sonne le plus naturellement possible, que ce soit le plus léger possible, qu'on n'ait pas l'impression justement qu'il y a 3 manuels d'anthropologie derrière et 15 spécialistes de médecine légale et choses comme ça. Donc il faut bosser beaucoup en amont, mais c'est ce que j'adore. Et puis prendre le temps de bien digérer pour n'en ressortir que la substantifique moelle.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de certains journalistes ou de certains libraires même qui vous prêtent une sorte d'image comme ça de Tony Hillerman français? Est-ce que vous êtes d'accord sur le côté polar ethnologique, cette identité-là, est-ce qu'elle vous va bien? Polar anthropologique,
honnêtement, je ne sais pas. Tony Hillerman, je ne l'ai pas lu.
Il y a un duo aussi, c'est pour ça aussi.
Oui, mais je ne l'ai pas lu, Tony Hillerman. Mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire Le Dernier Vapeur, tous mes copains qui, eux, sont des gens bien et qui lisent des polars, m'ont dit, il faut que tu lises Tony Hillerman. Voilà, donc j'ai dit, oui, d'accord, ok. Donc je les ai écoutés parce que c'est mes copains, il faut écouter ses copains. Et j'ai commandé, parce que j'étais en Suède, donc j'ai commandé, ceux qui étaient censés être les meilleurs. Mmh. Et puis quand je les ai récupérés, j'ai lu les quatrièmes de couverture. Et puis je les ai planqués aussitôt au fin fond d'une étagère parce que j'ai pensé que ça risquait de m'influencer. Bon, et alors j'avais peut-être tort, je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai senti sur le moment. Donc je n'ai pas lu Tony Hillerman, je n'ai pas lu non plus celui qui écrit sur l'Australie, là, avec Field, qui est un enquêteur qui s'appelle Napoléon Bonaparte, c'est ça, que je n'ai pas lu non plus. Donc il me reste plein de choses à lire. Mais en même temps, j'ai la tentation vraiment de les lire parce que je crois que Tony Hillerman, il a fait une vingtaine de bouquins, je crois. Il est décédé il y a quelques années maintenant. Mais
2008, oui.
Mais ce qui m'intrigue, c'est comment il a fait pour faire 20 bouquins avec son indien, son flic Navarro et pas se marcher sur les pieds. Voilà, mais donc c'était ce que je ferais. C'est pour ça que j'ai peut-être noyé Nina, finalement. Je sais pas, on verra.
Elle va marcher sur l'ombre de Clémette. Et
voilà,
ça va se passer, ça, c'est sûr. Il y a tellement d'humour et de poésie dans ce duo improbable, mais...
Enfin, je fais pas supermarché en même temps. Hein. Je fais pas seul service.
Alors l'oncle Nils Ant et Mademoiselle Chang.
Nils Ant et Changounette, ouais. Mademoiselle Chang. Elle est marrante. Alors je peux vous raconter parce que Changounette, je l'aime bien aussi. Moi, je suis comme vous. Parce que quand j'ai écrit, tout le monde n'a pas lu, j'imagine, donc je vais pas tout raconter sur eux. Mais quand j'ai écrit Le Dernier Lapon, j'avais fait un synopsis, j'avais fait un plan, j'avais fait tout ça très sérieusement. J'avais fait des fiches de personnages. Et Nils Ant, le personnage de Nils Ant, lui, je l'avais anticipé. Bon, parce qu'il avait un rôle de passeur d'informations auprès de Clémette. Donc il avait ce rôle-là à jouer. C'est pour ça qu'il avait ce côté yoïk. Parce que c'est important qu'il soit porteur, Nils Ant, d'une connaissance traditionnelle, même s'il est dans la modernité aussi avec sa musique, avec Spotify, les logiciels de musique en streaming. Mais voilà, donc je savais qu'il devait être là, Nils Ant. J'avais fait mon synopsis, mes chapitres, etc., très précis. Donc la scène où la première fois Clémette va chez son oncle, en dehors de Kaito Keno, ça je l'avais anticipé, je l'avais prévu, donc j'écris la scène, et comme souvent dans Le Dernier Lapon ou même dans Le Lettre du Loup, quand j'écrivais, en fait, je ne faisais que écrire ce que je voyais défiler devant mes yeux, c'est-à-dire les scènes, je les voyais se dérouler devant mes yeux. Et j'écrivais ce qui se passait comme journaliste qui était en fait témoin de son propre roman. C'était un peu bizarre, fascinant. Et pareil pour les dialogues d'ailleurs. J'entendais les gens se parler. Je me disais, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, c'est tout comme ça. Et donc Clémette monte les escaliers comme ça, très bien. Il appelle son oncle qui n'entend pas. Et pour cause, parce que son oncle est à l'étage, en fait, dans sa pièce, et est en train d'écouter, avec un casque sur les oreilles, il écoute de la musique sur Internet, il écoute ce que font les concurrents, en fait, les autres yoikers. Il y a des jeunes yoikers qui font du yoik rap, yoik hip-hop, donc il espionne un peu, enfin, il se renseigne sur la concurrence, lui qui a je ne sais pas quel âge, enfin bon, qui est d'un âge avancé, on va dire. Et tout ça, j'avais anticipé ça. Donc, je décris la scène. Et puis, tout d'un coup, donc, Clémette ouvre la porte. Ça, c'était normal. Jusque-là, je savais. C'était moi qui décidais jusque-là. Clémette, donc Nils Ant, était bien assis devant son ordinateur. Jusque-là, je le savais. Je savais que ça allait se passer. Donc, je décris tout ça. Et puis, mon regard continue. Enfin, c'était vraiment ce côté un peu bizarre de l'écriture. Et puis tout d'un coup, sur la table qui prolongeait comme ça, il y avait un autre ordinateur, il y avait Shangounette derrière l'ordinateur. Et je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas d'où elle vient, Shangounette. Et c'était Shangounette tout de suite. Ça a été Mademoiselle Shang.
La perle de la toundra.
Ça a été et elle était là, en train de parler sur son ordinateur par Skype, avec sa grand-mère qui était en Chine. Et d'où ça sort, ça, je ne sais pas. Donc Shangounette, c'est vrai que du coup, je l'aime bien, c'est vrai. Elle est un peu coquine. Elle est un peu coquine dans Les Trois du Loup aussi, un peu plus d'ailleurs. Mais ils sont mignons, c'est un couple que j'adore en fait. Et voilà, et c'est, bon, voilà. Mais c'est moi, pour moi, ça a été vraiment la magie de l'écriture. Je me suis régalé. Quoi.
C'est vrai que ces scènes sont assez mémorables. Et merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Merci.